Balado Diffusion est une production de Delta Media.
Enregistré chez Cinécure au 840 Miran, Québec, voici la 100e émission de Cinémascope en balado diffusion.
Avec vos fidèles animateurs, François
et Danny.
Alors, enregistré dans la place Café Vidéothèque Cinécure.
Notre fier partenaire pour les sorties DVD, mais
oui.
En fait, ça fait 4 ans en balado diffusion, mais...
Depuis plus longtemps. En fait, ça fait pratiquement 10 ans que je suis avec François et Cinécure.
Parce que Cinémascope a commencé à la radio.
Oui, à CKIA, en 2000. Ça fait longtemps déjà. D'ailleurs, l'intro que vous venez d'entendre faisait référence directement à mon émission il y a 10 ans.
Eh oui, c'était ce thème-là. Il y a un moment donné, c'était le thème aussi de 20th Century Fox. Mais je le sais, j'étais un fidèle.
OK. C'est vrai? OK.
Mais généralement, c'était celui-là. Ouais.
Ah, cool. C'est une belle fois. C'est plaisir. On apprend plein de choses avec Cinémascope.
Alors, dans cette émission spéciale 100e anniversaire, que se passera-t-il?
Bien, nous allons avoir une entrevue avec François.
Girard.
François Girard, oui, le propriétaire de Cinécure, du Café Vidéothèque.
Plus. Bien, évidemment, le tirage.
Oui, ça, c'est enfin. On va vous faire languir. Ça va être
le concours Retour vers le passé. Qui se méritera la DeLorean, la trilogie Back to the Future et un film de votre choix?
Plus un certificat cadeau.
C'est ça.
La DeLorean présentée par...
La DeLorean est commanditée par Cinéma Passion au 51 boulevard René-Lévesque Est-Québec. La trilogie Retour vers le futur et le film de votre choix avec un certificat cadeau, c'est Cinécure.
Exact.
Et ben, après la pause, on y va avec notre fameuse surprise qui représente notre 100e émission.
Le spécial.
C'est un top millénaire!
Les films, nos 10 films à nous, à vie, qui nous représentent, nous.
On verra bien s'il y a vraiment, si c'est vraiment tenu à 10 films, j'en doute.
D'ailleurs, chers participants, j'ai été gentil. Puis d'ailleurs, je tiens à le mentionner. Vous m'avez ému avec les choix que vous nous avez envoyés pour les décennies 70, 80 et 90. On a des cinéphiles qui nous écoutent et qui nous lient aussi sur cinemascope.delta.net.
C'est encourageant, puis c'est encourageant aussi parce qu'il y a beaucoup de participants.
Oui.
Je pense que c'est la première fois qu'il y en a autant.
Fait qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, parce que c'est des cinéphiles.
Oui. Fait qu'on s'en va après la pause avec nos top millionnaires. Restez là.
Cinécure Clip Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut.
Voici de retour dans la 100e émission.
Oh, Seigneur.
Avec le top millénaire de François. Et c'est supposément 10 films.
Ouais. Ben, j'ai resté fidèle à moi-même. J'ai quand même 10 films. Mais j'ai quelques bonnes notes. Qui auraient mérité.
Évidemment.
Bon, en tout cas, c'est ça. Bon. Là, encore une fois, comme toujours, depuis 3 émissions. Je n'ai pas de premier et de dixième. C'est un melting pot des 100 dernières années. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Le premier en liste n'est pas le premier à vie, là. C'est Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back.
Évidemment, un incontournable.
Un incontournable, oui. Alors, que dire de plus qu'on n'a pas dit déjà?
C'est ça, on l'a déjà dit, mais qu'on ne parlera pas de temps.
Oui, c'est ça. Regarde. L'Empire contre-attaque.
Ne peut pas ne pas faire partie.
non, c'est ça. Ben, en fait, je suis convaincu que toi aussi, mais là, on verra tantôt. Et vous verrez aussi ce que j'ai compilé à partir de vos choix.
Oui.
Le deuxième, d'ailleurs, il revient aussi souvent, je crois. Riders of the Lost Ark, oui. Les aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg en 1981. On a déjà parlé de toute façon des années 80 quand on a fait nos tops, il était là. C'est sûr qu'il y a des films qui vont venir, là.
Ben oui.
Ça, c'est normal. un film que je m'attendais pas. J'ai toujours pensé qu'il fallait laisser le temps faire son œuvre un peu. Mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Puis il m'a vraiment marqué, puis il me marque encore énormément. Il est sorti en 2008. Et c'est The Dark Knight.
Oui.
Le Chevalier Noir de Christopher Nolan. On a fait une émission spéciale sur juste ce film-là. Fait qu'il allait chercher là dans les archives de Balado Diffusion.
Oui, il y avait sûrement aussi une émission rétrospective de tout ce qui était Batman.
Oui, sûrement aussi. On a fait tellement d'émissions, on a fait ça. Fait que c'est ça. The Dark Knight en 2008. The Godfather.
Évidemment.
Le premier. En 1972. De Coppola.
Ça fait 38 ans.
38 ans déjà.
Je le sais, c'est mon âge.
Et il n'a pas encore vu Le Parrain.
Ça, fallait pas le dire.
Mais non, tu l'as déjà mentionné dans une émission précédente.
Je l'avais coupé.
C'est vrai? Ben, je le mentionne officiellement, mais je lui ai amené le coffret parce qu'il a lui-même demandé d'avoir le coffret. Je l'ai chez nous et je lui prête volontiers pour qu'il fasse sa culture. Bon. Apocalypse Now, qui est, à mon avis, ça je l'ai souvent mentionné dans les émissions avant, un des deux films les plus marquants de ma vie. Apocalypse Now, 1979. On a déjà...
Est-ce que tu l'as dans ta vidéothèque?
Même pas. Bon. Même pas. Ça, c'est...
Sacrilège.
Tiens, des tapes. C'est pas correct. Mais je le demande souvent en cadeau. Malheureusement, on me le donne pas.
OK.
Parce qu'il est juste en anglais. Moi, c'est correct en anglais. Je le veux, quoi. Je le veux en anglais. Qui sera en hongrois, je m'en fous. Mais bon, certaines personnes de mon entourage aimeraient bien l'avoir en français. Bon. Mais j'ai vu un beau petit coffret, là, dossier tout complet qui comprend Apocalypse Now Redux puis tout. Là. Pis, oh, ouh, j'en salive. Fait qu'Apocalypse Now. L'autre film dont je me faisais mention, les deux films qui m'ont marqué, 2001.
L'Odyssée de l'espace.
C'est de Stanley Kubrick.
C'est pas pour rien que tu as choisi ça comme thème à l'époque.
Exactement. Et encore, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, 1968. Kubrick ne fait que des chefs-d'œuvre. Ouais. Ben, en tout cas, à partir de, mettons, Docteur Follamour, là, à partir de ce moment-là. Là,
oui, il en a fait plusieurs.
Il a fait 12, 13 films, en gros. Sur la majorité, c'est avec des chefs-d'œuvre. Alors, 2001, Odyssée de l'espace, 1968. On va maintenant en 2003.
Oh, on va s'évrer tout, c'est...
Oh, c'est free-for-all. Ouais. Lord of the Rings, le retour du roi.
Évidemment.
Returns of the King.
Qui représente la trilogie.
Ouais, ouais.
C'est ton épisode préféré.
C'est mon épisode préféré. Puis de toute façon, c'est comme Riders of the Lost Ark.
Même chose.
Indiana Jones.
Ou Star Wars.
C'est ça, Star Wars. Mais non,
non, retour... c'est vrai.
Non.
T'aimes moins les Ewoks, retour du Jedi.
Ouais, puis j'aime pas vraiment la nouvelle série.
Ouais, non, mais moi, quand je parle de Star Wars, c'est 4, 5, 6. Ça.
Ben, malheureusement, on peut pas faire abstraction des 1, 2, 3. C'est dommage, mais c'est ça.
À notre âge, on peut.
Ouais, tu sais, on est chanceux, on a grandi dans la bonne période. En tout cas. Fait que le retour du roi de Peter Jackson, qui a gagné plusieurs Oscars à l'époque. Ce qui était phénoménal pour un film fantastique. Là. Les académiciens n'aiment pas ce genre. 1962.
Oh.
Réalisé par David Lean. Que je me suis tapé dernièrement, là, parce que ça me tentait. Lawrence d'Arabie. Un film de pratiquement 4 heures. Avec le nouveau venu Peter O'Toole qui a gagné un Oscar à ce moment-là. Ce film-là, c'est un film moderne pour l'époque. Qui se passait... début du siècle, la guerre faisait rage, mais ça se passait justement en Arabie. Un Anglais qui veut faire ami-ami avec les Arabes, puis les Arabes qui l'acceptent plus ou moins, puis les Anglais qui acceptent plus ou moins qu'ils soient amis avec les Arabes. C'était une grosse problématique dans le film.
Écoute, je l'ai pas vu, puis j'ai pas honte, c'est que je pense d'Arabie.
C'est loin.
Ça m'intéresse pas vraiment. Peut-être que je devrais m'intéresser en tant que réalisateur, mais...
Il y a des grandes choses. Bon. David Lean est un grand réalisateur. Un grand réalisateur. Il a innové, je te dis. Il y a des images là-dedans, là, des plans de caméra, là, des plans larges. Évidemment, à ce moment-là, c'était, tu sais, les plans larges avec plein de monde.
Ouais.
C'était pas du l'infographie.
Les années 60?
1962. Prochain film. 9e film officiel. Là. The Modern Times, 1936. Charlie Chaplin.
Oh! Ah oui.
L'État moderne.
Oui.
J'ai choisi lui, parce que j'aurais pu en choisir plusieurs, de Charlie Chaplin. J'aurais pu choisir, c'est quoi, les années-lumière, la ville-lumière, je ne me rappelle plus exactement du titre. Le dictateur, j'aurais pu prendre ça aussi. Mais l'État moderne m'a marqué à cause des images, tel mélange drame, comédie, puis des belles images. Le noir et blanc là-dedans, puis Chaplin qui était à son meilleur. Il a toujours été à son meilleur, souvent.
Écoute, il a écrit, réalisé, fait la musique. Il est le personnage principal, bien sûr.
C'est un artiste.
Et il y a quand même certains longs plans séquences. Puis j'ai ri, là, ça n'a même pas de sens.
Non, il est solide.
Ça bat bien les comédies récentes.
Ouais, on pourrait apprendre des graines même, hein? Ouais, il y en a qui devraient faire leur devoir. En tout cas. Et le dernier, et non le moindre, un autre chef-d'œuvre, 1941. Orson Welles, Citizen Kane.
Évidemment.
Encore là, technicien hors pair, des images à couper le souffle, une histoire à... En plus, ce qui était plaisant avec ce film-là, c'est que c'était actuel, ben pour l'époque évidemment, actuel. C'était pas une fiction. Il piochait carrément sur le système. Là. Il se gênait pas pour le faire. D'ailleurs, ce film-là a eu de la misère à être distribué. RKO, si je ne me trompe pas, a été inventé juste pour ce film-là.
Okay.
Ou plus ou moins un petit peu avant, tu sais, c'est un petit studio qui tirait de la patte, puis Orson Welles est allé voir avec son produit, puis OK, on va le faire. Bang! Shadow, peut-être, ouais, bang, bang. Orson Welles est concrétisé après les Martiens, à la radio.
Ouais.
Évidemment. Fait que voici, ça c'était mon top officiel. J'ai terminé.
Oui, OK.
On fait toutes les bonnes notes suite ou on passe à toi?
Ben, vu que tu es quand même assez rapide, on va aller avec tes bonnes notes.
Ah, ben, parfait. OK, c'est bon. Hein, c'est pas pire, hein, je suis capable d'être rapide. Fait que les bonnes notes, je ne peux pas passer à côté de mon film fétiche. Et là, Danny, c'est de quoi je parle. 1984, Evan Reitman, Ghostbuster. Fait que, bon, tout le monde le sait. De toute façon, depuis le temps, le Ghostbuster, c'est mon film comédie fantastique, fantaisiste. Fait que, ceci étant dit, bonne note, Ghostbuster. Autre bonne note, ben ça, c'est pour faire référence à la série au complet, mais c'est mon film préféré de cette série-là. C'est Goldfinger, James Bond 1964.
Le meilleur ou un des meilleurs?
Pas le meilleur, parce qu'il y en a quand même 22.
Mais avec Sean Connery.
Oui, mais moi, de toute façon, Sean Connery, on s'en est déjà parlé pendant l'émission Casino Royale. Peut-être Quantum of Solace, qu'on en a parlé un peu. Moi, c'est mon personnage. Ça, c'est mon James Bond.
Donc,
Sean Connery.
Dans la période de Sean Connery, ça serait ton...
Ben, je serais pas capable d'en choisir un pour la période de Roger Moore. J'en ai pas qui vient me chercher. Puis, Timothy Dalton, c'est pas un bon James Bond.
Parce que moi, j'ai découvert Sean Connery plus tard. Puis Goldfinger, ça serait mon préféré.
Oui, moi aussi.
Ouais.
Goldfinger, je l'ai dit. Mais Goldfinger, c'est mon meilleur de toutes les James Bond.
En plus.
Réalisé par Guy Hamilton, qui a fait. Ben, c'était fun à ce moment-là, il était fidèle les réalisateurs aussi. Il y avait Terrence Young qui réalisait, il y avait justement Guy Hamilton qui a réalisé. Comment il s'appelle donc c'est Fletcher ouais, Fletcher, en tout cas.
On va mettre des mouches.
Hein? On va mettre des mouches, ouais. En tout cas, Goldfinger, qui représente James Bond. Je les ai tous chez nous, en cassette. Ouais. C'est ça. Bonne note à Crazy.
Oui, oui.
2005. Tantôt, je disais qu'il fallait laisser le temps travailler un peu avec The Dark Knight. Crazy, ça fait quand même 5 ans, là. Puis on y pense encore.
Fait qu'un film québécois parmi ton top millénaire, c'est pas rien.
Ben, c'est une bonne note.
Ouais, quand même.
C'est une bonne note, mais il en fait partie, oui. De Jean-Marc Vallée, qui a concrétisé Marc-André Grondin comme artiste vedette qui fait maintenant carrière en France et qui revient de temps en temps au Québec. Et mon dernier, et non le moindre, que j'ai déjà mentionné dans la décennie 80, Akira.
Ouais.
Katsuhiro Otomo.
Oui.
Dessin animé science-fiction violent qui a brisé mon enfance. Fini les petits films de Walt Disney avec les petits cochons et les petites souris. Fait que c'est ça. C'est ça mon top.
C'est drôle. T'as passé à travers.
Ouais, mais ça fait bizarre.
Ouais, comment ça?
Ben, tu sais, on se peinture dans le coin, là.
Ah ouais.
Voici mes films.
Ouais.
Mais, tu sais, le cinéma, il sort 1000 films par année, pratiquement, là.
Ah ouais.
Là, moi, j'en donne 10 sur 100 ans. Je c'est sûr, j'en ai vu beaucoup. Je les ai pas toutes vues.
Ben, tu sais, peut-être que dans deux semaines, tu dirais, ah, ben finalement, j'allais.
Ouais, bon. Tu sais, j'ai pas de Bertolucci, j'ai pas de Fellini, Antonioni non plus. J'ai pas mis de Truffaut, de Cocteau. C'est pas évident, là, de se dévoiler de même.
Surtout, dépendamment quand est-ce que tu t'es mis à faire tes recherches. Dans mon cas, ça fait pas longtemps.
Ah, moi, ça fait des années que je travaille sur mon top. Okay. Il est toujours en perpétuel changement.
Ah bon.
Fait que ça se peut que, oui, comme tu dis, Dany, dans un an, je vais avoir modifié quelques...
C'est comme moi, de Dark Knight, j'ai oublié.
Hein? Oh, pas
parce
moi.
Parce que je me suis dit, ben, il est dans mes...
Ah ben, OK, regarde, vas-y, lance-toi.
Il est dans mon top sûrement 2000-2009. Top millénaire, j'ai voulu aller en bas de 70, vu qu'on a beaucoup, tu sais, aller... Okay. Bon, c'est sûr qu'il y en a, là. De 70, 80, 90,
ouais, ben
2000.
Oui, j'espère.
Mais j'ai voulu vraiment en profiter pour aller 60 en décembre.
Bon. Ben, vas-y, lance-toi.
Ben, là, on va aller une pause.
Bon, on va chier.
Alors, on fait une pause et après, c'est mon top millénaire. Restez là.
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.
Bonjour et bienvenue au de retour.
Toujours dans la centième émission.
La section top à vie. On est rendu avec Dany. Il va se peinturer lui aussi dans le coin.
Eh oui, alors voici mon top millénaire.
Il cache la feuille, il veut pas que je regarde.
Ah non. Alors moi, c'est... Je vais aller cette fois-ci en ordre croissant. Parce que je décroissais toujours dans mes
temps. En chronologie, tu descends du plus vieux, tu veux dire?
Là, je commence au plus vieux.
OK. Ça veut pas dire que c'est lui le numéro 1.
Non, non. Okay, c'est okay. Ça. Et je fais ça parce que là, on a reculé dans le passé, mais il va falloir revenir.
À m'amener, oui, hein.
Alors, ben, mon premier que je vais nommer, tu l'as nommé, Les Temps modernes de Charlie Chaplin.
C'est vrai, toi aussi. Ah, c'est bien drôle.
J'ai découvert il y a 2-3 ans, et c'était mon premier film de Chaplin que je voyais. Et j'ai ri, ça n'a même pas de sens, je l'ai dit tantôt. Mm. Et puis, ben c'est ça, il a écrit, réalisé, fait de la musique. C'est un artiste incroyable, comme on a dit. Je l'ai acheté dernièrement, édition spéciale. Puis, c'est ça. Fait que 1936.
Ah, voilà. C'est le fun, quand même. Voilà. Ah.
Ensuite, j'ai décidé d'y aller avec le premier dessin animé en long métrage de Walt Disney.
Ah.
1937, Blanche-Neige.
Ah, ouais.
Et là.
Ah, ouais.
Et là, je ne l'ai jamais fait dans les autres tops. Je me permets de faire des duos, parce que tu me l'as fait plein.
Ah oui,
je... Walt Charles, il y a plein de duos là-dedans.
Oh mon Dieu.
Fait que là, j'ai décidé de faire un duo avec Bambi.
Bambi qui était le deuxième, je pense.
Qui est un film de 1942, mais qui a été entamé en 1935. Il y a eu plein de contretemps, la sortie a été retardée plusieurs fois. Ouais. Entre-temps, ils ont réussi à sortir Dumbo puis Fantasia. Mais c'est ça. Mais quand il a sorti Bambi en 1942... Je l'ai vu il y a peut-être juste 5 ans. Moi, les classiques de dessins animés, je les ai vus à peu près 5 ans.
C'est récent. Okay.
Ouais. J'ai été jeté à terre par le réaliste des décors de la forêt. Les 4 saisons. Puis je venais de faire mon cours d'animation 2D-3D. Eux autres, c'est animation traditionnelle. Là.
Mm-hmm.
Dessiné à la main, 24 images par seconde.
Ouais.
Puis tu peins du ressort, tu couleurs ça, je sais pas comment. Incroyable. Le travail qu'il y a là-dedans. Là. Bon. Ensuite... Le Magicien d'Oz.
Là, c'est encore un duo ou c'est le troisième?
Là, non, là, c'est un film seul.
OK.
Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, 1939. Vous le savez peut-être, là, je l'avais peut-être déjà dit, quand j'étais jeune, j'écoutais la série Hulk en anglais à tous les vendredis soirs à 8h au Canal 3. Channel 3, Burlington. Et bon, là, on était à fin 70, début 80. On arrivait dans le temps des fêtes. Et encore une soir, j'étais seul avec ma mère. Et là, Special Movie Presentation. Bon, il n'y aurait pas de Hulk ce soir. Qu'est-ce que ça va être? The Wizard of Oz.
Bon. Oui, si.
Ouais. Fait que là, ma mère, elle dit, cet acteur-là, c'est un bon acteur.
Puis, tu devais être cru au début?
Ouais.
Tu veux mon Hulk?
Mais tu sais, il nous montrait quelques séquences avant que le film commence. Pas seulement que ça marche à la TV. Fait que, ça a l'air intéressant. Finalement, j'ai écouté presque jusqu'à la fin. Mais ça a commencé à 8h, fait que ça finit tard quand même,
ouais.
Avec les messages publicitaires en plus. Mais voilà, c'est ça. C'est, hein, on peut pas passer à côté d'un top millionnaire, je pense, sans nommer ce film-là.
C'est bon. Et c'est bon, moi j'aime ça. C'est bien aussi en même temps parce que tu sors des films que ben, j'y ai pensé, mais que je pouvais pas me permettre. Tu sais, il faut être concis. Là.
Ouais. Ensuite, Alfred Hitchcock. Je vois qu'un duo. 1954. Rear Window.
Ah oh, ouais. C'est ça là que tu as choisi.
J'ai découvert. Ben, ça fait longtemps que j'ai vu Psycho et The Birds, là, mais quelqu'un m'a prêté toute la collection. Presque toute la collection d'Hitchcock. Il y en a une méchante
trop. Il y en a une trop. Tu es sérieux, toi, là?
Oui.
C'est qui ton ami? Je veux le voir. C'est mon copain.
Il a acheté ça ailleurs. Je pense qu'il a acheté ça au Japon, mais c'est lui. Et, ben moi, j'avais souvent entendu parler du film La Corde, The Rope.
Oui.
Parce que c'était supposément. Tout le film au complet était un long plan séquence.
Supposé, ouais.
Avec une petite tricherie, évidemment. Parce que les bobines de film duraient, mettons, 10 minutes. Donc, à chaque fin de bobine, ça arrangeait pour faire passer quelque chose dans l'écran pour boucher la vue, pour changer. Bon. Mais quand je l'ai vu, ça m'a déçu un peu parce que je trouvais que les transitions n'étaient pas très subtiles. Des fois, c'est carrément le caméraman qui whoop, puis il s'en va carrément dans le dos de quelqu'un.
Oui, il se tose, puis il revient.
Bon. Ouais. Et je me disais, il me semble, Hitchcock, il aurait trouvé des meilleures idées que ça. Mais je m'attendais à plus, je pense pas. Mais ce qui arrive avec Rear Window, c'est que lui aussi, il y a certains longs plans séquences. C'est à huis clos. Et ça nous intéresse du début à la fin. On est toujours du point de vue de l'appartement du héros du film, qui a une jambe dans le plan, qui est un photographe.
Jim Stewart.
Et tout ce qu'on voit du film, c'est toujours à partir de cet appartement-là. C'est-tu Grace Kelly qui est la fille là-dedans?
Je crois que oui.
Bon,
tu me prends de court, là, mais...
En tout cas, des fois, elle vient le voir, elle l'aide, elle le soigne. Puis là, c'est le fameux classique là, qu'il croit apercevoir un meurtre dans la fenêtre d'en face. Alors ça a servi pour bien des films après. Hein.
Ben oui, Disturbia. Là,
Exactement. Récemment, c'était ça. Puis en tout cas, il y en a eu une trollée. Donc, à un moment donné, la fille, elle va aller voir de l'autre côté. Mais là, la caméra ne suit pas la fille.
Mais non, c'est ça.
Ben, elle la suit, mais toujours à partir du point de vue de l'appartement.
De Jim Stewart. C'est ça.
Et puis, regarde. Pour réussir à nous intéresser...
Méchant thriller.
C'est incroyable. Ensuite, ben justement.
Ben là, c'est un duo, là.
Ouais, c'est un duo. L'autre, c'est 1960, Psycho.
Non, un classique.
Je trouve que. Bon, si tu regardes le film, t'es en noir et blanc, tu vois les années 60, mais il est tellement techniquement bien fait que ça a quand même l'air d'un film récent tout le temps. Il traverse toutes les décennies.
Ouais. Mais moi, ouais, vas-y.
Non, vas-y.
Ben, moi, ce que j'aimais aussi, parce que c'est rare qu'un film tue. Sa meurtrière, son héroïne,
oui.
Quoi, dans les 10 premières minutes. Là, ouais.
C'est le fun aussi de voir des femmes qui ont du caractère.
Ouais.
Souvent, c'était ça dans Hitchcock. The Bird aussi.
Oui,
la
Bird.
Fille à fond, c'est elle qui n'aime. C'est le fun.
Mais là, c'est. Ah oh, ouais, quand j'aime ça.
Ensuite, oh, un autre duo, Kubrick. 1968. 2001, l'Odyssée de l'espace.
Bon.
J'ai emprunté le coffret Kubrick à François il y a 2 mois. Puis comme j'avais déjà dit, sûrement, 2001, je l'avais vu jeune. Juste la première demi-heure.
T'étais
parce
pas prêt,
il était tard. Puis pour moi, c'était plate. Pendant une demi-heure, des singes qui se fassent de ça qu'un os. Là. Bon. Fait que je me suis dit, mais un jour, il faudrait que je le voie. Et ce jour est arrivé. Et résultat, c'est un de mes films préférés à vie. J'en reviens pas du réaliste. Des vaisseaux, des décors, toute la technologie dedans. Là. Même si, bon, on est en 2010 et on n'est pas rendu à cette technologie.
Mais non, encore, c'est fou, hein?
Mais j'ai été jeté à terre parce que ça arrive avant Star Trek, ça arrive avant Star Wars, les longs métrages. J'ai jamais vu une scène d'atterrissage de vaisseau aussi réussie que ça. Quand tu atterris à la Lune, là, tu sens le poids du vaisseau, le train d'atterrissage qui touche au sol. J'ai jamais vu une scène comme ça, aussi réaliste, même aujourd'hui, là, avec la technologie à la fine pointe. Là. J'ai jamais vu ça.
Là, je dis rien, là, parce que j'ai le gros sourire dans la face. Là,
les décors, puis la station circulaire, puis tu sais quoi, on dit qu'on est là. Même si tu vois le look années 60, c'est pas
non,
grave.
Non, moi, c'est sûr que les costumes datent un peu, là.
Oui. Puis...
Arthur C. Clarke avait travaillé de pair avec Kubrick.
fait affaire avec une certaine technologie de la NASA aussi.
Oui. Des trucs, là.
Incroyable.
J'ai commencé à péter les plombs là aussi.
Et également en duo avec 1980, The Shining. Je pense que c'est le premier film de Kubrick que j'ai vu.
Ah, OK.
Je l'ai vu en 93, c'est lui qui me l'a fait découvrir.
Tu n'avais pas vu Full Metal Jacket avant?
Non. Je l'ai vu en même temps quand tu m'as prêté le coffret. Puis Orange Mécanique que j'ai vu il y a une dizaine d'années quand même. J'aurais pu le mettre, là, mais je voulais faire un choix. Et L'Exorciste n'est pas dans mon top millénaire.
Hein?
Oh. Fait que moi, c'est The Shining. Moi, c'est plus ça.
OK, toi, ton représentant horreur, c'est The Shining.
Ben, horreur. C'est sûr que c'est moins horreur.
C'est très subjectif.
C'est ça.
Très subjectif.
Parce qu'on l'a dit, hein, L'Exorciste, je l'ai vu jeune, j'ai pas eu peur. Shining, j'ai vu en 93, puis moi, me retrouver tout seul dans mon hôtel, isolé de même, avec des jumelles qui m'apparaissent tout en sang, qui veulent jouer avec moi. Hein. Pas sûr. Alors voilà. Un autre duo.
C'est long chez l'autre.
Ah ouais, garde. Je me suis dit, garde, il m'a eu deux fois, mais c'est maintenant ou jamais.
C'est bon.
Alors, les incontournables dans mon cas, les deux premiers Superman.
Ah ben oui. Les vrais Superman numéro 2, là.
Premier par Richard Donner et le deuxième par Richard Lester. Un jour, je vous promets mon émission Montée de lait pour la version Superman 2 de Donner avec Director Scott, que j'ai moins aimé. Mais bon, alors, que dire, hein? Je n'ai parlé en mars dans les
vidéos
top. Là.
On ne parlait pas mal.
Superman, pour moi, c'était le rêve absolu. T'es jeune, tu vas au cinéma, tu vois ça.
C'est un des premiers super-héros à être porté au grand écran, je pense.
Ouais.
Au grand écran, je parle.
Ouais. Ensuite, un autre duo.
excusez.
The Empire Strike Back.
OK.
Incontestable,
ben
incontournable,
oui,
pas le choix.
C'est ah, ben trop. Donc le duo, c'est avec le premier.
Non.
Hein?
Ouais, ben c'est ça. L'Empire contre-attaque, trop solide. Hein? C'est comme... Ben tu sais, un peu comme 2001, mais plus fantaisiste, évidemment.
Oui.
Mais. C'est solide.
Comment tu dis ça? Heroic Fantasy.
Ouais.
Dans la science-fiction. Puis, en plus, ce que j'aimais de ce film-là, c'est ce qui est rare. Je l'ai pas vu. Quand t'as pas vu ta feuille? La finale, ça finit mal. T'as fini pas
avec
les héros gang.
Ça finit à suivre.
Ça dit, l'Empire contre-attaque. Ouais. Yes! C'est ça qu'on veut.
Ouais. Je l'ai mis en duo avec l'ami de Lucas, un film de Spielberg.
Ok, c'est pas... Ok, vas-y, continue.
Close Encounters of the Third Kind. Je me devais de mettre un film de Spielberg dans mon top. Je me disais que, bon, à part sa période film de guerre, là, si on reste dans la partie... Excusez. dans la partie familiale, science-fiction, c'était lui qui le représentait le mieux. Un film sérieux. T'sais, c'est pas E.T., c'est pas Jurassic Park, c'est pas Jaws. C'est un film très bien fait.
J'ai rien à dire de plus. Là. Regarde, Rencontre du troisième type, c'est quand même un classique aussi, là, qui est sorti en même temps que La Guerre des Étoiles.
Aussi. Alors voilà. Ensuite, Vol au-dessus de Nid de Coucou. 1975, le réalisateur.
Le réalisateur, c'est Milos Forman. C'était son deuxième film aux États-Unis.
Je me devais de me mettre un film de cinéphile dans mon temps.
Cinéphile!
Fait que. Que dire,
1975, hein? C'est ça?
Ouais. On a parlé beaucoup.
Oui, on a parlé pas mal. Ben, Jack, en tout cas, c'est ça.
Ensuite.
T'en restes combien, là? Deux, t'en nommes dans
la. Reste deux.
Vous en avez deux duos?
Non.
OK.
Lord of the Rings.
Okay,
qui représente la trilogie, mais okay. moi, c'est l'épisode 1.
Ah ouais? La communauté de l'anneau?
Ouais.
OK.
Parce que on visite les différents mondes, la comté des Hobbits, ouais. le village, en tout cas le monde des elfes. On voit les Nazgûl pour la première fois. Saruman, je trouve qu'il est beaucoup plus présent dans celui-là que dans les autres aussi.
Oui, il y a beaucoup de poids, il y a beaucoup de place, oui.
Parce que je trouve que dans le deuxième, Saruman, on le voit très peu, puis quand on le voit, il parle pas. Il faut juste regarder dehors et être en maudit parce que les arbres sont de toutes ses affaires.
Mais ce qui est plate un peu, parce que les deux tours concernaient beaucoup Isengard.
Ouais.
En tout cas.
Mais je n'ai jamais vu les versions longues. Donc, toi, t'as le coffret, peut-être un jour.
Oui, il faudrait que je le prête, oui.
Alors, Lord of the Rings, hein,
Mais ça, c'est un tout. Comme tu dis, c'est un tout.
Je suis pas un amateur de films fantastiques de ce genre-là, mais ça, c'est comme... Hein, ça va rester à jamais, ça.
Ah, c'était réussi du début à la fin.
Ça n'avait pas le choix de faire partie d'un top millénaire. Et pour terminer, 10 films, est-ce qu'il y a eu beaucoup de duos?
Là, je viens de rallumer que toi, tu pars en chronologie. Là. Fait que là, on doit être proche, là.
Proche de?
Ouais, attends, Lord of the Rings, c'est en 2001?
Ouais.
OK.
Ben là, on est rendu en 2008.
Ah, OK, vas-y.
Wall-E.
Tu vrai?
Ouais.
Wall-E, Colin, ouais. C'est bien le fun.
Ouais. Je trouvais que...
Tous les films de Pixar, c'est Wall-E qui t'a marqué le plus?
Oui.
C'est bien, c'est correct. Tant mieux, j'aime ça.
Oui, oui. On parlait beaucoup de Up dernièrement.
Oui, oui.
Mais Up, moi, c'est surtout la partie introduction, tu sais, quand tu le vois grandir avec sa femme.
Mm, ouais.
Après ça, je trouvais que ce côté-là très poignant, il y en avait moins après. Parce que Wall-E, je suis un enfant de A à Z. C'est ça.
Mais ce qui était fun aussi, c'est que Wall-E, la moitié du film, pratiquement, il n'y a aucun...
Ouais.
Aucune voix, là.
C'est Wall-E avec sa petite sauterelle, je sais pas quoi, là.
Ou un grillon, je sais pas trop, moi, c'est ça. Puis, on l'entend, je pense, c'est peut-être Wall-E, quand... Comment ça s'appelle? Eve.
Exactement.
C'est tout. Eve. C'est tout. Il est craquant.
Tellement c'est... cool que j'aimerais savoir une blonde qui s'appelle Eve. Pas qu'elle me trouve fatiguant à longue.
Eve. Eve. Oui, ben, je pense que toutes les Eves de ce monde doivent être écœurées, là, t'sais.
OK, alors ça, c'était mon top officiel.
Tu dois avoir une vingtaine de bonnes notes. Là.
Non.
Non. T'en as-tu?
4 notes. Alors, attention.
C'est bien. Vas-y.
Chantons sous la pluie.
C'est vrai, Singing in the Rain.
Ouais.
De Gene Kelly.
Et de Stanley Donen.
Oui, Donen. Ouais.
1952. J'ai vu ça très jeune, et c'est ma comédie musicale préférée, parce que j'en aime pas d'autres. Pas compris.
Mais quand on parle de comédie musicale, ça comprend les drames, là. Tu sais, comme Dancer in the Dark.
Non, ou, comédie.
OK, comédie, OK.
C'était drôle, les sketchs, les tunes étaient drôles, étaient le fun.
C'est bien ficelé, hein?
Oui.
Tu sais, c'est bien incorporé.
C'est l'histoire de... Ils sont en train de tourner un film. Mm. Donc, étant jeune, c'est sûrement aussi certaines choses qui m'ont amené à vouloir faire des films. Puis dans l'histoire, ils étaient à l'avènement du film parlant. Mm. Donc là, c'était toutes les... Ils sont pas habitués là, de faire un film, il faut que tu parles, puis le micro, puis ça griche, puis ça...
C'est ça, les fils qui traînent, là, ouais.
Tu sais, ben vraiment, c'est une comédie, on exagère. Ben vraiment, ça, c'était une des mille bonnes.
Un film dans un film, c'est ça.
Ouais. Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès.
Ah, ben ouais.
1902.
Là, on est dans un cours didactique, là.
Écoute, c'est top millénaire, hein? 1902, ouais. C'est pas compliqué, Georges Méliès, c'est un des pionniers du cinéma.
Oui.
La pellicule, le cinématographe, ça venait de sortir. Et lui, c'est un magicien. Fait qu'il s'est servi de l'outil pour pousser ses spectacles de magie plus loin. J'ai vu des trucs dans mon cours d'infographie. Hey, des années 1890, là, c'est quand que ça a commencé.
Hey, c'est commencé. C'est...
Hey, tu vois des images, là, un gars qui enlève sa tête puis qui a fait rouler sous ses épaules. Là. T'étais là. Qu'est-ce que c'est ça? Comment il fait ça? Ben, il travaille à même la pellicule avec un crayon, puis il efface des choses, en ce cas. Un génie.
Ah, mais oui.
Puis Voyage dans la Lune, ben, c'est évidemment son adaptation de Jules Verne.
Ouais.
Je l'ai vu, ce film-là, j'ai vraiment vu.
Oui, j'avais pas vu au complet, moi.
J'ai-tu vu au complet, en tout cas? Assez pour voir que.
J'ai juste l'image de la fameuse fusée.
Oui, qui rentre dans la Lune, c'est justement, puis c'est une Lune avec un visage maquillé. Pis,
ouais.
Ingénieux, puis. Je pouvais pas poser
inventif.
Ouais. Steamboat Willie. 1928. De Walt Disney.
Ah, OK. Bon, c'est un film, ça?
Ben, c'est un dessin animé.
Oui, c'est un dessin animé.
En noir et blanc, bien sûr.
Mais...
Le premier qui...
C'est un long métrage?
Non.
Ah, OK.
Ben, c'est un long métrage. Pas une question.
Je pense pas, là.
En tout cas, pas de ce que j'ai sur mes collections.
Oui, il me semble que non.
En tout cas... film qui met Mickey, ouais. Mickey Mouse en scène. Bon, j'imagine que si ça s'appelle Steamboat Willie, c'est parce que ça s'appelait peut-être pas Mickey encore.
Ouais, je sais pas, j'ai aucune idée.
Mais Mickey est là, Minnie est là,
ouais.
Et ainsi que le chat méchant que
je
mets sous le nom.
En français, c'est Patibulaire.
Encore une fois, j'ai été jeté à terre, je me suis dit, C'est un des premiers de Walt Disney.
C'est fluide, hein?
C'est fluide, puis ça fait pas facile, là. T'sais, même les objets sont vivants. T'sais, les instruments de musique sont vivants. Les cheminées du bateau sont vivants. Le crochet, parce que c'est un genre de bateau remorque.
Ouais.
Qui ramasse Minnie qui a manqué le bateau. Là.
Ou la vache.
Ramène sur le bateau, puis le crochet est vivant. T'sais, whoop, la jupe a levé, il redescend la jupe. Il est poli en plus, le crochet.
Oh, c'est un univers fantaisiste. Là. C'est ça qui était fun avec l'époque. On n'avait pas besoin de faire réaliste avec le dessin animé. Là.
Non, c'est ça. Là. C'était très imaginatif.
Ouais, parce que plus ça avançait, plus on sentait le besoin de rester quand même ancré dans un certain carcan un peu plus réel.
Ouais. Alors, il me restait une bonne note.
Oui.
Je l'avais pas mis dans mon top 90. Là, j'ai décidé de le mettre parce que c'est vrai que ça a quand même marqué le cinéma. C'est The Matrix, 1999. Beaucoup de monde les ont copiés après, hein, les fameux effets spéciaux.
Oui, le ralenti, c'est ça.
Mais par contre, j'irais juste le premier épisode. Les deux autres, j'ai toujours dit, c'est une trilogie mal dosée au niveau de l'action et au niveau des chorégraphies de combat. Trop dans le 2, il ne reste plus grand-chose pour le 3.
Ouais, ben c'est comme du déjà vu un peu pour le 3.
Ouais.
Mais moi, j'ai quand même aimé le 3. Là. Mais le deuxième, moi, ce que j'avais pas, c'était comme un aparté.
Ouais.
Un trou, quelque chose, un filage.
On n'est pas beaucoup dans la matrice. Dans le 3, tu parles?
Oui, le 2. Je te parle de
deux. Dans le 2.
Dans le 2, c'est du remplissage d'action puis de science. Tu sais, on vous met de l'effet.
C'est ça.
Pour aller au 3, qui finalement vire pas mal plus psychédélique.
Dans le 3, on n'est pas beaucoup dans la matrice.
Ben, correct, ça, c'est normal.
Dans le
c'est comme une évolution, maintenant, là, pour sortir à maner de la matrice.
Hein? Ouais, on sort un peu trop de bonheur. Ça s'appelle The Matrix, c'est que ça
Révolution, ça s'appelle. Là,
c'est comme si Star Wars, pendant un film, on déciderait qu'on passe...
juste une planète, puis on reste là.
Oui, puis qu'on se promène sous l'eau, puis comme dans la menace fantôme, en tout cas. Et finalement, tant qu'à je suis dans les bonnes notes, fait que je peux...
Tu lâches plus?
Oui, je vais rajouter The Dark Knight. Hey, ça n'a pas de sens.
Vas-y, regarde ça, toi.
Oui.
Tu te rappelles des choses?
Alors voilà, c'était mon top millénaire.
C'était nos top millénaires.
Oui.
Est-ce que je fais la compilation du public?
On va aller une pause, hein, pour vos amis.
C'est bon.
Alors, après la pause, ce sera le top du public.
C'est le top 90, 80 et 70. Pas là, évidemment, on ne l'a pas demandé à personne.
Non, c'est ça.
C'est ça. Donc, j'ai fait une compile.
Par rapport au concours, bien
c'est
sûr.
C'est ça.
Alors, à tantôt.
Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net.
Vous écoutez toujours la 100e émission de Cinémascope en balado-diffusion
enregistrée
chez Cinécure au 840 Miron, Québec. Et c'est maintenant le tour de nommer
les choix du public, vos choix à vous, que j'ai compilés depuis trois mois. Ça fait le concours, ça fait quoi, trois mois qui roulent?
Oui. Dans le cadre du concours, retour vers le passé.
Ah, j'ai eu du fun à vous lire, c'était l'enfer. Il y a eu beaucoup de titres, j'ai jamais fait le plus compil, mais il y a eu beaucoup de films. Des beaux films.
Alors...
Il y a même deux, trois films là, que je dis, je connais pas vraiment tout. Il fallait que j'aille vérifier pour me renseigner un peu c'était quoi. Là.
C'est des vrais cinéphiles.
Et ça, j'aime ça de même. Ouais. Bon, fait, on va commencer par la décennie 90. Et je vais y aller en ordre de décroissant. Pas vous nommer tout de suite le numéro 1. Votre numéro 1.
OK. Décennie 90, c'est parti.
10e position. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10e position, façon de parler. Oui. C'est toute l'égalité. Il y a des votes pour autant que le 6e que pour le 10e. Alors voici. 12 singes, 12 monkeys.
Oh, très bon choix.
De Terry Gilliam. Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob.
Oui, très bon choix aussi.
Oui, Adrian Lynn. The Sixth Sense.
Oui.
Le 6e sens, un incontournable. Mm-hmm. Le meilleur film encore selon moi de M. Night Shyamalan. Reservoir Dogs,
oui.
De Quentin Tarantino. Forrest Gump,
bien sûr.
De Robert Zemeckis. Et ça, j'ai été surpris, Les Visiteurs. Film français avec Jean Reno et Christian Clavier. Ça, c'est pour le 10 à 6.
D'accord.
Ou à 5. Excusez, à 5. Numéro 4. Il était tout seul dans sa gang. Goodfellas. Les Affranchis. De Martin Scorsese.
Oui, oui, oui.
Excellent film avec Ray Liotta, De Niro, Joe Pesci qui jouait un fou braque là-dedans. Là, j'ai 3 numéro 1 qui se partagent la note parce qu'ils ont eu le même nombre de votes.
OK.
Pulp Fiction de Tarantino. Le Silence des Agneaux.
Oui.
Jonathan Demme. Et La Liste de Schindler.
Eh bien, c'est...
Hein, c'est des beaux choix.
Il n'y a pas de police inquiète. Ben...
Mais non, il n'aurait pas pu en avoir non plus, là. Mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup. Les années 90, c'est plus frais en mémoire, hein. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de titres.
Comme on nous disait aussi, les années 90, il y en avait moins de films gnagnants, tu sais. Beaucoup de films...
Oui, les années 80 étaient plus gnagnants.
Ouais.
D'ailleurs, vous avez fait comme nous autres, cher public, les années 80, c'est plus nostalgie, là, souvenir. Fait que là, on passe aux années... Décennies 80, compilation publique. J'ai 1, 2, 3, 4 dixième position. On va commencer par le... Bon, en fait, n'importe quel. Stand By Me.
Oui.
Compte sur moi.
Bien sûr.
De Rob Reiner avec les jeunes River Phoenix, Corey Feldman. Comment ça s'appelle donc?
Merde, de voir des mouches.
Oui, j'ai un blanc là.
J'ai mis au camp là.
Ah oui, c'est ça. The Breakfast Club.
Mm-hmm.
De John Hughes. Un autre incontournable avec une autre belle gang, une belle brochette, là.
Que j'avais oublié, moi, dans mes...
Emilio Estevez, John Nelson, qui n'a rien fait d'autre après, là. Michael C... comment s'appelle, non? Anthony Michael Hall. En tout cas, peu importe. Un film qui est sorti le 30 avril, le premier de la série. A Nightmare on Elm Street.
Oui.
Fait partie du décennie 80 de vos... Beau choix à vous. Le premier Freddy. Et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, avant-dernier film de Kubrick.
Ah, ben, quand même.
Ça, c'est pour le 10. Ça, c'est juste pour les 10.
Oh, moi, ok, ok.
Maintenant, 9, 8, 7, 6, 5. Tout le même nombre de votes. Donc, de 5 à 9, c'est la 5e position. Blade Runner.
Yeah.
De Ridley Scott. Platoon.
Hmm.
De Oliver Stone. Il y a des beaux choix, là.
Oui, oui.
Riders of the Lost Ark,
bien sûr.
Évidemment. Ghostbusters est là. Je suis flatté. Merci. J'espère que c'est pas juste pour me faire plaisir. Mais non, je pense pas. Pink Floyd, The Wall, d'Alan Parker. C'est vrai que c'est un excellent film, ça aussi.
Ça a de l'air bien parce que. Il y a juste Ellie qui a mis ça dans ses affaires.
Numéro 3, à égalité, il y en a deux. Star Wars, numéro 5.
Bien sûr.
L'Empire contre-attaque. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit en premier. Il est en numéro 3. Avec E.T., l'extraterrestre.
Okay.
Et ça, on parle de souvenirs nostalgie. Moi aussi, E.T. m'a marqué beaucoup. Là. Fait, mais je l'ai pas mis. Bon, peu importe. Et le numéro 1 en duo. tu vas être content, je pense. Back to the Future.
Oui.
Retour dans le futur. Je sais pas si c'est parce qu'on avait le concours là-dessus. Là.
En tout cas, ça, ceux qui l'avaient oublié, on l'a rafraîchi à mémoire.
Mais il est sorti fort. Là. Il est vraiment sorti fort. J'ai regardé les trois tops, là, les trois décennies, puis Retour à la voiture a eu beaucoup, beaucoup de votes. Mais c'est pas le meilleur de toute la gang. Et The Shining.
Oh!
Ouais, j'avoue, j'étais surpris pour celle-là. Shining est numéro 1 à égalité avec Retour à la voiture pour les années 80.
Ah, c'est bon.
The Shining a marqué le public.
Oui.
C'est le fun. Je suis content. Je vous aime, public. Je vous aime. Et maintenant, la décennie, selon moi, c'est bien personnel, là. La décennie qui a fait le plus de chefs-d'œuvre, selon moi.
La naissance de beaucoup de choses.
Oui, non, oui, la naissance de beaucoup de choses. Exactement, c'est bon, ça, c'est bien dit, ça. Décennie 70. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 à 10 sont toutes à égalité au nombre de votes. Fait que, peu importe lequel que je nomme. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Oui.
C'est tout déconnu, là. Rencontre du troisième titre de Spielberg. Rocky, qu'on n'a pas nommé nulle part.
Effectivement.
Mais il a marqué le monde, Rocky, le numéro 1.
Et lui, il y a Rocky 2 dans son top 110.
Ouais, ben il a failli y être aussi. Il y a eu beaucoup de votes, mais moi, je prenais rien que les 10 premiers. Jaws, Les Dents de la Mer.
Yeah.
The Godfather Part 2, le numéro 2. Apocalypse Now. C'est le fun, moi j'aime ça, je vous aime. Numéro 4. Il est seul en numéro 4, avec beaucoup de votes, L'Exorciste.
Yeah.
Numéro 3. L'Orange Mécanique. Mm-hmm. 1971 de Kubrick. Et numéro 1, à égalité.
Roulement de tambour.
Roulement de tambour, exact. À égalité, La Guerre des Étoiles, A New Hope,
okay.
Le numéro 4, et The Godfather, le parrain.
En première position?
Oui.
Ah ben oui, c'est vrai, les années 70, ça n'aurait pas pu être l'Empire, c'est sûr.
Mais non, non, c'était 1980. L'Empire est en troisième, comment on a dit ça tantôt? Autre, je ne me rappelle plus. Là. Fait que le parrain, c'est, d'ailleurs, c'est ces deux-là qui ont eu le plus de votes de toutes les décennies.
Ben, c'est pas pire. T'as le côté cinéphile et le côté entertainment.
Ouais, divertissement, c'est ça. Grand public.
Ouais.
D'ailleurs, La Guerre des Étoiles, que tout le monde connaît l'histoire, qui a failli jamais voir le jour.
Ouais.
Fait que ceci est fait. Après la pause, c'est la consécration.
Oui!
Oh, oh, oh.
Oui, juste un petit enfant.
Je vire fou.
Le moment tant attendu.
François va se joindre à nous. Pour le tirage.
François Girard.
Oui, François Girard, excusez.
Alors, restez bien à l'écoute. Ça s'en vient après la pause.
Parlez votre âme de ses plus sombres atours. Au www.divisiongothique.com, procurez-vous des vêtements gothiques conçus sur mesure. Chez Division Gothique, laissez briller la noirceur de votre âme.
Fait que, ben, bonjour, on est de retour de la pause, on est avec François Girard.
Bonjour.
Proprio de Cinécure. Alors, salut François.
Bonjour, on se fait longtemps. Salut François.
Ça fait 10 ans, quoi.
Ouais.
Un bon 10 ans, au moins. C'est lui qui a cru en moi en premier. quand j'étais à l'époque de Ciné-CKIA, à l'émission radiophonique, il y a longtemps. Alors, François, on va commencer, ben, bon, on a déjà fait une 50e émission.
Oui.
Il y a 2 ans. Puis à ce moment-là, on avait parlé de la crèmerie. Ben, il y a eu des changements, là. Avec
de gros changements.
Des gros changements. Qui correspond à quoi, surtout?
Ben, vous avez déjà fait un tour du proprio, donc oui. Le tout est devenu café.
Une belle place, d'ailleurs.
Oui, ben dans le fond, c'est qu'on a, je vais utiliser le verbe reléguer, le vidéo au sous-sol. Définitivement, je pense que le cinéma n'est pas en perte de vitesse, mais la location vidéo, elle, définitivement ralentie. Donc, on n'a pas eu le choix de se repositionner là-dedans, retrouver dans le fond notre segment.
Il y a 2 ans, est-ce qu'on était dans la vidéo VHS ou tu avais déjà mis ça de côté?
VHS, j'en ai encore.
T'en
dans
encore?
Le fond, oh, oui, ah, tout à fait. Ah, là, okay. C'est juste que bon, ça loue à peu près plus. On fait seulement de la vente dans le VHS.
Okay.
Mais c'est en déclin. Je dirais que la location, c'est ça en général, est en déclin. Donc on n'a pas eu le choix de choisir une nouvelle vocation pour rester en vie. On a quand même gardé une thématique cinéma. Donc, on a fait un café, là, justement, qui est à...
Pourquoi un café? Ça fait longtemps que ça traînait en...
Ben, c'est sûr qu'il fallait voulais. Que je me trouve un concept qui se jumelait bien au bar laitier.
Oui, c'est vrai. Bon,
je voulais
ben
pas
oui.
perdre mon bar laitier. Donc, de faire un café est parti tout simplement du constat que, bon, ben quand, dans le fond, on exploitait le vidéo seulement, souvent, bon, ben j'avais des gens qui se promenaient un peu dans l'endroit, regardaient les films et tout... Puis je me disais tout le temps, bon, ben si j'avais 4 personnes en train de boire un café et de lire un journal, ben j'aurais toujours bien vendu 4 cafés de plus à ce moment-là. Ouais. C'est que le raisonnement est parti de là, puis à un moment donné, bon, ben ça a été de donner un étage au complet, au concept, puis ça a donné le Cinécure Café Vidéothèque. Là.
Ah, un bel endroit. D'ailleurs, toi, tu travailles surtout maintenant en haut.
Ouais. Définitivement, là, je priorise mes activités au rez-de-chaussée, là, où il y a encore beaucoup, disons, de modus operandi à développer. Là. Faut, bon, que ça soit les commandes.
En plus, c'est un café, c'est carrément Internet aussi. Hein,
oui, tout à fait. Café définitivement destiné aux étudiants. Étant dans le dortoir étudiant, là, j'avais pas le choix de cibler
secteur,
comme ça.
C'est un secteur étudiant.
Oui. Éventuellement, je veux me développer un peu plus dans la restauration, mais là encore là, ces petits trains vont loin.
Pour chaque chose dans son temps.
Oui, une marche à la fois.
Ah, ben, on a fait le tour de Sinecure. Là, on va faire le tour de l'homme. OK, il va... Là, on lui a demandé de nous faire un top qui va représenter Sinecure, mais lui aussi...
Ouais, c'est le top 10 Sinecure.
Alex qui s'occupe surtout de l'envoi. On va le voir plus tard.
Là, je présente le top 10 sinécure parce que moi, le mien est inclus. La même chose pour Alex. Là, on s'est chicané suffisamment longtemps pour pas se redéchirer une fois de plus.
C'est bon. De toute façon, Alex, il est pas là pour se défendre. C'est bon. Lance-toi là, François.
Il y a pas de position, donc...
C'est bon, ça y se mouille pas.
Alors, on a dit Snatch.
Snatch de Guy Ritchie.
Guy Ritchie, exactement. Dans la même veine, Pulp Fiction. On a rajouté À l'ombre de Shawshank, Shawshank Redemption, Full Metal Jacket, Stanley Kubrick. The Usual Suspect.
Ça, je suis content qu'il l'ait mis, parce qu'on l'a... D'ailleurs, Shawshank Redemption, comme je disais tantôt, à Ronde, personne ne l'a nommé. Puis pourtant, sur IMDb, un site internet de référence,
ouais,
là,
tout à fait.
C'est numéro 1. De tous les films, sur 100 ans, Shawshank Redemption est numéro 1. Mais vous n'avez pas voté pour lui.
Personnellement, c'est mon numéro 1, À l'ombre de Shawshank.
C'est Frank Darabont, je pense.
Oui, exact. Ouais. C'était un très grand film.
C'est un King, ça, non? C'est un Stephen King, je pense.
Oui, exact. Goodfellas.
Il a franchi.
Je peux pas passer à côté.
C'est-tu ton film de Scorsese? Oh!
C'est chien. Ouais, c'est chien. Ben, je pense que dans mes films, même mafieux, c'est peut-être mon favori. Là, ouais.
C'est vrai?
Définitivement.
Je regarde ta liste, je veux.
Avant, j'étais un peu plus, justement, mafieux, définitivement, mais on change.
Parce que là, je viens d'allumer, là, il est pas là, là je le vois pas. Là.
Godfather? Mais Godfather me fait vivre moins de bons moments que, que Goodfellas.
Ben, il est comme moins mellow, mettons.
Le 3 brassait, mais était définitivement moins bon, disons, au niveau scénario, niveau d'histoire en tant que tel. Bon, c'est ça. Le 2, je l'avais adoré, mais pour les séquences avec le jeune Vito.
De Niro.
Là, c'était écœur, hein? Là, c'est. J'aurais fait un film que de ça, définitivement. Puis lui, il serait sûrement en tête de liste, quant à moi. Là.
Okay.
C'est mes plus beaux moments de cinéma, je pense. Okay. De Niro, justement, dans le rôle du jeune Vito. Mais Godfellas, il y a tellement de scènes auxquelles je m'associe ou quoi, que j'aimerais y en être. C'est
la tête de Joe Pesci était un peu
comme ça. Oui, ben, il est dans à peu près tous ses films. Là-dedans, il est spécial encore plus. Dans Casino, là, c'est la totale. Là, c'est là qu'il passe du crayon.
Mais bien. Je pense que c'est dans lui qu'il a gagné l'Oscar de meilleur acteur de soutien.
Voilà, oui, tout à fait. Ouais, exact. Alors, Forrest Gump, qu'on a rajouté à ça. C'est sûr que, bon, nous autres, on est quand même allé dans une optique qu'on est un centre de location. Donc, ce qu'on a créé, c'est non seulement une liste qui nous ressemble, mais une liste qu'on se dit qu'on pourrait soumettre à peu près à tout locataire pour être convaincu d'une satisfaction.
Évidemment, peu importe, est-ce que tu nommes tes âges?
Oui, tout à fait. On a rajouté 12 Monkeys, qui représente le summum dans la science-fiction à notre avis.
Le summum? Hey, tu y vas fort, là.
Ben, point de vue histoire, intrigue, punch, jeu des acteurs, scénario, la petite mystique qui plane, je trouve qu'il touche beaucoup d'horizons, définitivement. Là. C'est sûr qu'il y en a qui vont cibler un style, puis sont forts là-dedans. Moi, Dune, je veux dire,
Dune, c'est très
simple. Je baptiserais mes enfants sur Dune, mais je veux dire... Disons ce que va me générer le film, on va me demander lequel des deux tu as le goût d'écouter maintenant. Ça va définitivement être 12 Monkeys. Okay. Je m'en apporte plus. On a mis évidemment Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, mais on le considère comme un tout. Les deux, on a lu les trois tomes, c'est quelque chose qui est indissociable. Là. On peut pas évaluer Le Seigneur des Anneaux que par les deux tours ou par le retour du roi. Donc, on le traite comme un
film de
tout.
10 ans.
Exactement. C'est un film de 10 heures.
J'ai jamais fait. T'as-tu fait déjà? J'ai jamais fait. Tu l'as fait ou?
Ah, plus d'une reprise.
Hein? Arrête donc.
Ouais. Version étendue.
Crème.
Ouais. Un marathon.
Ben, c'est bien. C'est correct. J'ai toujours voulu le faire. Mais
ça prend du souffle. Puis le dernier, ben dans le fond, on voulait quand même une comédie, malgré le fait que bon, les comédies sont habituellement difficiles à placer en top. Mais le dîner de con, définitivement, nous fait tous au...
Bravo, je suis content que tu sois là.
On se roule à terre à toutes les fois.
Ben, c'est le meilleur, ben, je dirais pas le meilleur, mais un des meilleurs de Francis Weber.
Oh, moi, je dirais le meilleur, là.
Ben, il a fait des bons au début des années 70, là.
Pierre Richard et ses copains, puis...
Ouais.
Et je les réécoute, puis le dîner de con, quant à moi, les coiffe tous, là, un après.
C'est pas son pignon,
ouais,
encore,
exact.
Encore.
Il oh, oui, son personnage.
Ah, il était drôle.
Donc, ça ressemble à ça pour le top 10 sinécure.
Ah. C'est bon, hein? C'est le fun, hein? Oh, God. Je suis très bien. Fait que, ben, c'est ça, avec François. Bon, il va revenir plus tard, là. Alors, de retour de la pause pour la consécration de l'émission 100e épisode. Une émission qui se passe chez Cinécure, Café Vidéothèque au 840 Mirand, à Québec, avec toujours François qui est de retour dans l'émission. Et voici Alex.
Allô?
Alex qui est. Présente-toi un petit peu, là.
Moi. Monsieur m'a engagé il y a quelques années de ça, puis je me suis occupé de plus en plus de la vidéothèque, tout simplement. On peut dire ça comme ça.
Fait que c'est le représentant de la vidéo en soi. François, c'est le représentant de la place et du café, entre autres. Alors, sans plus attendre... Ouais, il y a Danny, il est en arrière, lui. Là, il tient la caméra. Fait que sans plus attendre, ben, on va présenter les prix encore une fois. Dernière fois qu'on les présente, parce que là, il va y avoir un gagnant, là. La DeLorean, qui est une commandite de Cinéma Passion, 51 René Lévesque. J'aime ça. La trilogie de Back to the Future, évidemment, qui est concept avec le tirage en soi. Qui est une commandite de Cinécure. Et certificat cadeau de 25$, qui le gagnant va pouvoir, à partir de ce coupon, choisir dans sa liste. Tiré, qui va nous avoir présenté. Alors, sans plus attendre, cher...
Moi, je brasse. Toi, tu piques. Pas que tu regardes. Alors...
Je me suis forcé pour écrire, là.
Je savais que ça devait pas. C'est un Kevin... Je vais demander lecture d'un... C'est vraiment Martel. C'est à cause qu'on a un Kevin Martel qui travaille ici.
Selon les choix de films, il y a des chances.
Arrête donc, toi.
Oui.
Ouais.
Ben, c'est Kevin Martel qui a gagné.
Félicitations, Kevin.
On va regarder juste pour la fin. On va le peinturer dans le coin, lui aussi. C'est la décennie 80 qui lui a fait gagner son... C'est les trois prix. C'est crime, c'est belle fun. Kevin Martel, il travaille en bas.
Il n'y a pas de trucage. Il
travaille en bas ou en haut. En bas, en haut. Fait que lui, ses choix, c'est les années 80. Tiens, je vais te laisser les nommer. Ben, juste forcer un peu sur lui, quand même, c'est lisible.
Il n'y a pas de problème. Batman, The Lost Boy, les Back to the Future, Commando, Beetlejuice, Terminator, Ferris Bueller Day Off, Rambo, First Blood, la partie 2, puis Top Gun.
C'est vraiment nostalgie, les années 80. Bon, ben.
Excellent.
Et voilà. Terminé. La 100e est en boîte et je vous remercie tous. Je remercie encore Cinécure, François et Alex pour nous avoir aidés à faire ce concours de 3 mois, de longue haleine. Et ben là, c'est un nouveau concept. On repart sur une nouvelle trail. Fait que, bye bye. Bye, merci encore. Merci François.
Cinécure Clip Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Mirand à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut.
Bonjour, c'est François de Cinémascope. On est présentement chez Cinéma Passion, 51 René Lévesque Est à Québec. Et je suis, en fait, je vais le laisser se présenter, le propriétaire de la place. Puis pour ça, je vais poser des questions, vous allez voir.
Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Lionel Majot. Je suis copropriétaire avec mon épouse Hélène Trudel de la boutique Cinéma Passion. Puis Cinéma Passion, c'est une boutique vraiment pour les amoureux du cinéma. Ce qu'on a voulu faire, c'était un endroit vraiment original, vraiment uniquement consacré au cinéma et à tous les types de cinéma.
Alors, ça fait combien de temps à peu près que ça a commencé?
Ça fait 3 ans et demi qu'on est ouvert. Donc, c'est encore une jeune boutique. Puis, c'est encore une fois, c'est vraiment... une boutique consacrée au cinéma de Charlie Chaplin jusqu'au film de maintenant, avec une partie musée où on fait des expositions, avec des vieux magazines, des vieilles photos, puis des produits récents aussi. C'est vraiment un endroit, c'est pas uniquement une boutique pour les collectionneurs, c'est vraiment un endroit pour les amoureux du cinéma.
Ok. Mettons, je fais référence, mettons, au costume en arrière, comme le musée là-bas, ça vous appartient pas?
La partie musée, on fait des expositions temporaires, à peu près 2 à 3 expos par an. Donc ça, c'est soit ma propre collection, soit des collections privées de personnes. Concernant les costumes de dynastie ou le costume porté par John Turturro dans les Transformers, dans le numéro 2, ça, c'est, ça appartient à un monsieur, mais c'est des produits qui sont à vendre. Mais ce qui est, c'est quand même un certain prix, le costume des Transformers, c'est quand même 1 750 $. Mais c'est un costume porté par l'acteur John Turturro, puis c'est des vrais costumes. Mais ce qui est vraiment intéressant pour les gens, c'est de voir les costumes en vrai. Si on prend par exemple le costume de John Turturro, on se rend compte que le blouson en cuir, c'est vraiment un blouson en vrai cuir, c'est un blouson de l'armée. Dessus, il y a l'étiquette de l'US Armed Force. C'est quelque chose qui doit peut-être coûter 500-600 $. Mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas quelque chose qu'on voit forcément à l'écran, mais que dans les budgets, comme ça, dans les films, ils investissent quand même dans des petits détails comme les costumes. C'est vraiment intéressant pour les gens de voir ça ou de se rendre compte de la taille. Là, je vous ferai voir les chaussures de John Turturro. Vous allez voir, c'est vraiment des grosses chaussures. Et puis, on se rend compte qu'il a vraiment des grands pieds.
Puis là, je fais référence. Tantôt, je parlais justement des costumes. Mais il y a aussi l'exposition Marilyn Monroe. Ça, c'est à vous, celle-là?
Oui, une grosse partie des produits dans l'exposition sur Marilyn sont à moi, effectivement. Mais il y a beaucoup de personnes qui passent et puis qui me disent « Ah, j'ai quelque chose, est-ce que je peux vous le prêter ?» Et puis qui le font vraiment. Ah oui, oui, bien sûr, oui, c'est même ouvert à plein de gens. Les gens qui ont une belle collection et puis qui ont des nouvelles idées, ils peuvent venir, puis ça me fera plaisir de les exposer. Une collection, c'est vraiment intéressant que quand on peut la partager avec quelqu'un. C'est bien beau d'avoir ça dans des boîtes chez soi, dans des vitrines, mais si on ne peut pas la partager avec quelqu'un, ça a beaucoup moins d'intérêt.
Bon, j'ai beaucoup de choses qui traînent chez nous.
Ouais. Ben, voilà.
OK. Puis, cette passion-là, avant que vous ouvriez la boutique il y a 3 ans, elle se répercutait comment auparavant?
Moi, j'ai attrapé le virus du cinéma en 1982, en allant voir... très précis, c'est vraiment un film particulier qui m'a donné ce virus-là. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas forcément un grand film. C'est Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo. Okay. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a donné le virus du cinéma. Avant, j'ai collectionné les timbres, j'ai collectionné les trucs sur les animaux, les choses comme ça, mais jamais sur le cinéma. Et puis depuis 1982, avec ce film-là, j'ai attrapé le virus, puis ça ne m'a jamais passé. Moi, j'ai collectionné beaucoup de choses. J'ai collectionné les affiches de cinéma depuis ce temps-là, j'ai collectionné les photos, plein de choses comme ça. Sauf que je n'ai jamais trouvé de magasin où je pourrais vraiment m'épanouir et puis dépenser tout mon salaire que j'avais. Donc j'ai eu l'idée de faire cette boutique ici. Mais c'est quelque chose qui vient vraiment de la passion. Parce qu'avant, moi, ça fait longtemps que je suis dans la vente, mais je vendais des ordinateurs. J'étais vendeur en informatique. Ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Mais...
Quoique maintenant, le cinéma et les ordinateurs, ils vont de pair.
Oui, oui, oui. Mais ça, on s'est dit que le cinéma, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très spécialisé. Oui, c'est spécialisé en cinéma, mais le cinéma est un art universel, c'est un art tellement populaire que tout le monde aime les films, que ce soit à des degrés plus ou moins importants. Oui, il y a des gros collectionneurs qui veulent tout collectionner. Oui, il y en a qui viennent pour chercher un souvenir de leur adolescence, pour des idées cadeaux, pour décorer les salles de cinéma maison. On a une très très grosse collection d'affiches de films en stock. On a plus de 1500 affiches de cinéma en stock. Donc c'est vraiment très ouvert. Hein. C'est tellement universel, le cinéma.
Je veux que tu te mouilles un peu, à part le professionnel.
je vois la question, et puis le professionnel, je le mettrais même pas dans mon top 10.
Non, mais moi, tout, je suis pareil. J'ai pas mis dans mon top 10 Ghostbusters. Mais moi, c'est mon film en 1984 qui m'a fait ouvrir au cinéma. Mais il est pas là. Vite de même,
je dirais, là, sur ces 10-15 dernières années, là, le film qui m'a le plus marqué, c'est Moulin Rouge, avec Nicole Kidman et puis Ewan McGregor. Je dirais ça, mais quand on apprécie un film, ça dépend beaucoup de notre humeur, de notre état d'esprit, de l'époque aussi. Je sais que par exemple, en 88, Le Grand Bleu, je fais partie de la génération du Grand Bleu, j'ai eu le film à peu près 10 fois au cinéma, et puis je trouvais ça me faisait... Mais je suis pas certain, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je suis pas certain que maintenant, que je vais l'aimer autant là. Tandis que Moulin Rouge, quand je l'ai découvert, je l'ai regardé plein de fois et puis je suis resté peut-être 2-3 ans sans l'avoir vu, puis j'avais un petit peu peur de le revoir, de peur d'être déçu, puis de plus avoir la même passion quand j'avais découvert ce film, puis j'ai quand même revu et puis j'ai trouvé ça vraiment formidable.
Le Moulin Rouge, ok. Ça, c'était Baz Luhrmann. Est-ce que j'imagine que vous avez vu aussi Australia. Ou ben donc, peut-être l'autre, c'est quoi dans toi, Roméo?
J'ai vu Roméo, mais j'ai vraiment le premier film que j'ai vu de Baz Luhrmann, ça a vraiment été Moulin Rouge, puis ça m'a donné envie de voir les autres. Donc j'ai vu Roméo plus Juliette, j'ai pas vraiment aimé. Australia, j'ai trouvé ça intéressant, mais ouais, je trouve que c'est pas du tout la même chose que... Non.
Roméo, t'es quand même...
Et j'ai pas vu son premier film aussi, Ballroom Dancing.
Ah non, c'est vrai, ouais, un film australien que j'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu.
Sa trilogie de films de danse avec Roméo plus Juliette, mais j'ai pas vu celui-ci. Hein.
Alors, je te remercie beaucoup. Surtout pour le concours aussi. C'est vrai parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire tirer la DeLorean. Alors, ceci conclut notre capsule sur Cinéma Passion, 51 René Lévesque Est. Et merci de nous avoir écoutés dans cette superbe 100e émission. Et nous continuerons dans le futur, peut-être avec d'autres collaborations. J'ouvre la porte. Alors, merci.
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.